Il est 9h24 minutes. Eh bien, on a pris l'habitude de prendre des nouvelles des gens là pendant la crise de la COVID et le confinement et le déconfinement. Alors, on va prendre des nouvelles de Jean-François Lisée, auteur et ancien chef du Parti québécois, qui semble pas s'être ennuyé durant la pandémie parce qu'il n'a pas écrit un, il a écrit deux livres, imaginez. Bonjour, Jean-François Lisée.
Bonjour, ben oui, je me suis ennuyé. Oui, je me suis ennuyé de vous, évidemment.
ben, pas tant que ça, vous avez eu le temps d'écrire deux livres.
Ben, oui, mais là, il fallait que j'occupe les pensées, parce que normalement, dans mon autre vie, tous les jours, on se voyait, Louis,
oui,
avec certains de vos amis, d'ailleurs, puis oui. Vous me posiez des questions, vous aviez l'air très intéressé par mes réponses. Ça me manque, là, moi, des fois, je suis chez moi, puis les gens me posent pas des questions aussi, disons, intéressées. Parfois, des balles rapides, oui. des balles courbes. Vous étiez bon dans les balles courbes, ça, je me souviens de ça.
Ouais,
mais c'est ce qui augmente l'intérêt de l'échange.
Oui, le degré de difficulté. Frapper une balle courbe, oui. C'est plus difficile, évidemment.
Oui.
Mmh. Alors, donc...
vous m'avez fait faire une coupe de fausses balles, ça, je dois vous dire ça.
Oh, si peu. Donc, deux livres que j'ai lus que j'ai dégusté avec appétit, je devrais plutôt dire, qui se lisent très bien d'ailleurs, c'est parce que c'est pas des livres extrêmement volumineux, mais c'est des livres dans lesquels vous racontez, M. Lisée, des anecdotes, notamment sur John F. Kennedy, des choses que moi, personnellement, je ne savais pas à quel point, d'abord, il était francophile,
oui.
Et à quel point il aimait le Québec.
Oui. Et juste pour mettre en perspective, donc je me suis dit, maintenant que je suis grand, qu'est-ce que je vais faire de ma vie?
Oui.
Et comme, bon, l'écriture, je pense que je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai écrit des gros livres dans le passé, puis je me suis dit, est-ce que je suis capable d'en écrire des plus courts, premièrement, puis deuxièmement, ça me tente de, pour tout le monde, mais aussi pour la nouvelle génération, comment les intéresser à l'histoire moderne du Québec,
oui.
Sans leur dire, bon, ben là, c'est un cours d'histoire. Et donc, entrer dans l'histoire du Québec à travers des personnages ou des événements particuliers qui leur permettent de comprendre ce qui s'est passé, mais mm-hmm. avec des récits qui sont vrais, bien documentés, mais structurés comme des romans, des histoires.
Oui.
Alors,
oui.
Alors, la collection s'appelle Jean-François Lisée raconte, et les deux premiers sont Kennedy, la tentation québécoise de Kennedy et de Gaulle, l'indépendantiste, ce qui nous permet, à travers de ces deux géants du 20e siècle qui se sont intéressés au Québec, d'entrer dans l'histoire du Québec des années 60, à partir du début des années 60, et ensuite, je vais continuer mm-hmm. la collection comme ça jusqu'à la fin des années 2000 à travers des personnages, évidemment des personnages québécois ou des événements qui, pour intéresser un nouveau lectorat à notre histoire qui est vraiment foisonnante, rebondissante, étonnante. Je veux dire, c'est fou mm-hmm. ce qui se passe au Québec pendant ces années-là.
Oui.
Et puis, moi, je trouve ça drôle de le raconter.
Ouais, ben exactement. Donc vous avez des idées encore beaucoup de livres.
Une dizaine. J'ai un arc dramatique sur une dizaine de bouquins sur
ouais.
5 ou 6 ans qui va nous amener donc du début des années 60 jusqu'à la fin des années 2000,
ouais.
jusqu'à 2000 à peu près.
Bon. Ouais. J'ai l'impression, en tout cas, je lisais ça, je me disais, ben, il y a probablement beaucoup d'éléments là-dedans sur lesquels vous aviez déjà travaillé, là, lorsque vous étiez, entre autres, journaliste aux États-Unis à une certaine époque. Vous étiez correspondant aux États-Unis. C'est sans doute de là qu'est parti, entre autres, le premier sujet dont on parle, celui de John F. Kennedy.
Ouais, Kennedy, j'avais fait l'enquête à l'époque, puis je l'avais utilisé dans mon premier livre qui est Dans l'œil de l'aigle, qui a été publié il y a
ouais.
30 ans et qui est plus disponible en librairie. Donc, c'était un de ces éléments-là. Donc, je l'ai retravaillé, je l'ai mis à jour. Et sur le fond des choses, ce qui est intéressant, c'est que, moi, je pensais pas du tout ça, mais Kennedy, il devait, pour entrer au Sénat, donc il devait avoir des votes dans tout l'État du Massachusetts, et les votes des franco-américains, c'est-à-dire les descendants de Québécois,
oui.
étaient très importants. Alors, si tu les avais pas, normalement, les franco-américains votaient républicains.
Mm-hmm.
Alors là, il fallait qu'il réussisse à en avoir de son côté. Et le gars qui était la figure dominante de la communauté, c'était le curé, le père Armand Morissette,
oui.
qui lui était un gaulliste. Et une chose extraordinairement rare, où que ce soit dans les années 50, si l'on parle des années 50, il était déjà pour l'indépendance du Québec. Et donc, il lui en parle. C'est le premier contact que Kennedy a avec cette idée d'indépendance du Québec.
Mm-hmm.
probablement que ça n'aurait pas du tout eu d'effet sur Kennedy parce que les Américains, puis tous les autres présidents américains ont été opposés à l'indépendance pour toutes sortes de raisons, y compris l'idée de la guerre de sécession aux États-Unis. Pour eux, l'indépendance, c'est la sécession, puis la sécession, c'est évidemment une mauvaise chose.
Oui, bien c'est ça. Kennedy, c'est qu'on associait souvent le mouvement souverainiste au Québec, entre autres à l'époque de René Lévesque, quand René Lévesque, au tout début de son, comment dire, de son chemin de croix pour essayer de faire du Québec un État, il était souvent confronté à cette dualité-là, à cette confrontation-là aux États-Unis en disant, ben on le ramenait toujours à la guerre civile américaine qui n'était pas un excellent souvenir. Là.
Exact. Alors pour lui, René Lévesque, c'est un de ses plus grands chagrins. Lui, il pensait que les Américains verraient dans les Québécois un écho de l'indépendance américaine.
Oui.
Là, il s'est rendu compte qu'il voyait un écho de la guerre de sécession. Ça, c'était pas la même référence. Et puis, mais Kennedy, lui, d'abord, il était irlandais, donc il était pour l'indépendance de l'Irlande. Mm-hmm. Ça, c'est déjà quelque chose. Et il est devenu, avant d'être président, il était en faveur de l'indépendance de l'Algérie, alors que la France était contre, et les États-Unis étaient contre. Il était pour l'indépendance du Vietnam avant que les Américains, évidemment, interviennent dans la guerre. Donc, il était pour l'idée d'indépendance par ailleurs.
Oui.
Alors, ce qui a fait en sorte que, évidemment, à aucun moment, il a crié « Vive le Québec libre », là, c'est sûr. Mais en privé, donc la preuve que j'accumule, puis les témoignages, puis le contexte, c'est que en privé, à au moins deux reprises, il a signalé qu'il était favorable à l'idée d'indépendance pour le Québec.
Ouais.
Il n'en aurait pas fait une politique présidentielle, mais ça aurait été le fun qu'il vive encore quelques années pour voir comment il aurait réagi à De Gaulle,
mm-hmm.
parce qu'il était un grand admirateur de De Gaulle,
oui.
Mais il n'était pas là pour revoir le Vive le Québec.
Ouais. Bon, on va y revenir à De Gaulle dans un instant, mais ce qui m'a étonné, on l'a effleuré tout à l'heure, c'est à quel point, à cette époque-là, d'abord, on parlait français aux États-Unis, là, entre autres en Nouvelle-Angleterre, dans le Massachusetts, tout ça, mais on le parlait couramment aux États-Unis à cette époque-là. Il y avait même des journaux francophones qui n'existent plus maintenant.
Il y en a très peu maintenant, mais à l'époque, il y avait des journaux, des hebdomadaires, des quotidiens, et c'était important pour les politiciens républicains et démocrates d'être présents. La mère de Kennedy, les Kennedy, c'était l'aristocratie.
Mm-hmm.
Et donc, pour l'aristocratie, le français, c'était noble, c'était super. Alors, ta mère parlait français, elle allait dans les communautés franco-américaines faire des discours. Son frère parlait français. Évidemment, Jacqueline Bouvier, sa femme, vient d'une famille française.
Oui.
Et elle parle français couramment et elle a écrit à Vogue. Et d'ailleurs, Kennedy aimerait parler français. Et il va même à l'ambassade américaine à Paris, avant la Deuxième Guerre. Il apprend un peu le français. Il le parle très mal. Un ami dit qu'il parle français comme avec un accent cubain. On ne sait pas pourquoi. Et puis, une fois qu'il est à la Maison Blanche, il est très frustré parce que André Malraux, le grand ministre de la Culture de Gaulle, vient à la Maison Blanche et Jacqueline lui parle français. Un de ses conseillers lui parle français. Son ami Ben Bradley, qui dirige l'information au Washington Post, lui parle français. Puis lui, il est à sa table à la Maison-Blanche, puis il n'arrive pas à suivre la conversation. Fait que là, il décide de prendre en cachette à la Maison-Blanche des cours de français pour pouvoir, à un moment donné, surprendre tout le monde en faisant un beau discours en français, mais la vie ne lui a pas donné assez de temps pour réaliser ça.
Bien sûr, parce qu'il a été assassiné en 1963. Bon, abordons l'autre dossier qui est un peu en lien, dans le fond. Il y a un lien qui existe entre les deux. D'ailleurs, vous avez des citations de l'un dans l'autre, soit dit en passant. Et De Gaulle, l'indépendantiste. Et là, on revient, puis on en a parlé il y a quelques semaines, parce que c'était la date anniversaire de la fameuse déclaration de Charles De Gaulle au balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal, le fameux « Vive le Québec libre ». Et là, on fait un peu l'histoire de ça, à savoir, parce qu'on s'est longtemps posé la question... Est-ce que De Gaulle savait ce qu'il faisait quand il a fait cette déclaration-là?
Oui. Et puis là, vous voyez dans le livre, enfin, j'ai pas fait une enquête spécifique, mais là, j'ai tout relu ce qui s'est publié depuis.
Oui.
Et puis là, mon angle, c'est dire, je vais essayer de me mettre dans la tête de De Gaulle. C'est quoi le développement de sa pensée sur le Québec, d'où ça vient, puis où ça va? Et donc, je suis très concentré sur lui. Et il devient indépendantiste en 1960. Puis on se dit, mais qu'est-ce qu'il a
qu'est-ce
fait?
Qu'est-ce qui s'est passé?
Indépendantiste en 60? Parce qu'il fait une visite au Québec en 60 qui est assez décevante. OK? Mais c'est comme s'il se projette, hein, on soulignait cette semaine, là, l'anniversaire de l'appel aux Canadiens français que De Gaulle avait fait lorsqu'il était réfugié à Londres. Mm-hmm. Et c'est très particulier parce que c'est comme s'il disait, là, les Allemands ont envahi la France, moi je suis exilé à Londres, je suis sans alliés, ça pourrait qu'on disparaisse, c'est-à-dire les démocrates français, ça pourrait qu'on disparaisse, mais qui, dans l'histoire de la civilisation française, a connu un risque semblable et s'en est tiré, c'est les 40 000 colons français abandonnés sur les bords du Saint-Laurent qui, 300 ans plus tard, ont résisté, existent, et donc ça, c'est la preuve que nous aussi, les Français, on va pouvoir s'en tirer. Et c'est très bizarre comme lien, mais donc c'est comme si dès la guerre, il fait ce contact avec le destin ce qu'il appelle les Français du Canada et son destin à lui.
Oui.
Et à partir de ce moment-là, il sera le principal moteur de l'aide française au Québec. C'est lui, c'est pas ses conseillers, c'est pas des espions, c'est pas des infiltrés, c'est pas des séparatistes. Il est le moteur de la politique pro-indépendantiste de son propre gouvernement.
Mm-hmm. Mais il avait mal lu lors de l'appel de 1940 aux Québécois. Il avait mal lu la situation parce que lui, comme vous venez de le mentionner, il pensait que il y avait un lien qui se faisait automatique. Puis finalement, quand il y a eu le référendum sur la conscription, les Québécois ont dit non, là, ont pas voulu.
Ils ont dit non, effectivement. Puis pire que ça, là, il envoie une de ses fidèles pour tâter le terrain. Puis elle lui écrit, mais là, écoutez, ici, ils sont tous pour Pétain. Pétain, qui était le général, le maréchal, qui avait donc collaboré avec, et signé l'armistice avec. Alors, ils sont tous pour Pétain, parce que Pétain, il est catholique. Les Québécois sont catholiques. Et ils sont contre la France révolutionnaire et la France républicaine qui a lâché l'Église. T'sais. Alors, on n'était pas du tout dans la même dynamique. Et ça a été très graduel que, finalement, les Québécois, avec la mobilisation des Anglais aussi, à des Américains, finalement, deviennent plus favorables à De Gaulle qu'à Pétain.
Ouais.
Et que malgré leur refus de la conscription, il y a un très grand nombre de Québécois qui se sont inscrits volontairement pour faire la guerre et ont été très présents sur les... Ouais. Sur les combats.
Et ce qui est assez étonnant de cette déclaration-là, de fameux « Vive le Québec libre », c'est qu'ici, ça a été une espèce d'étincelle dans le mouvement souverainiste qui a été perçu comme étant une espèce d'appel, là, puis de signe comme quoi, sur la scène internationale, il pouvait y avoir une certaine reconnaissance. Alors qu'en France, les intellectuels en France, les politiciens en France, se disaient que Charles de Gaulle l'avait complètement échappé. Et d'ailleurs, il était lui-même en très grande perte de vitesse à cette époque-là, politiquement.
Oui, effectivement. C'est sa dernière grande audace internationale. Et puis, je le mets en perspective dans le bouquin pour dire, regardez l'escalier de l'audace, tout ce qu'il fait de plus en plus audacieux. Et là, c'est aller dire dans un pays allié, le Canada, qui a participé à la libération de la France en 1945, aller faire la promotion de la sécession d'une de ses provinces. Je veux dire, c'est pire que tout ce qu'il a dit avant.
Mm-hmm.
Et il le sait. Et j'ai été très attentif dans mon récit à montrer comment, il le dit lui-même, il est bouleversé par l'affaire du Québec.
Ouais.
Et lorsqu'il est invité à l'exposition de 67, donc 2 ans avant, il ne veut pas venir. Il refuse. Il y a des lettres où il refuse de venir. Et il dit à ses proches, « Si j'y vais, c'est pour mettre le feu. »
Ouais.
Okay? Et c'est comme s'il disait « Retenez-moi, je vais faire un malheur. Hein? » parce qu'il sait qu'il va dire quelque chose comme « Vive le Québec libre ». D'ailleurs, sur le navire, le Colbert, qui l'amène à travers l'Atlantique, à un moment donné, il écrit ses discours. Tous ses discours sont écrits à la base. Et là, il va se promener sur le pont et il tombe devant son chef d'état-major et il lui dit « Que penseriez-vous si je leur criais « Vive le Québec libre » ?» Puis là, il dit, vous n'y pensez pas, mon général. Il dit, mais si, je pense que je vais le faire. Ça dépendra de l'atmosphère.
Ouais.
Et donc, la préméditation est totale.
Ouais.
Elle est totale. Mais une fois qu'il l'a dit, il se demande s'il est allé trop loin.
Ouais.
Puis là, il y a une période, puis là, je me suis vraiment attardé à montrer comment il y a une période où il se demande si il n'a pas trop froissé son ami Daniel Johnson, le premier ministre du Québec, comment la presse va réagir. Il sait que la presse anglophone va être terrible.
Ouais.
Il ne s'attend pas à ce que la presse française soit terrible. Et ça, c'est une énorme déception pour lui. Puis surtout qu'il y a certains opposants qui disent, ben, il est sénile. Ça, il le prend très, très mal.
Ouais.
Il le prend très, très mal.
Ouais.
Mais donc, il était isolé en France au moment du Le Québec libre, mais 15 ans plus tard, tous les partis politiques, sans crier « Vive le Québec libre », était en faveur du droit des Québécois à l'indépendance.
Ouais, ouais.
Son nombre porté était quand même assez fort.
Et le lendemain, lors d'un déjeuner, parce que De Gaulle, à cette époque-là, quand il est venu faire son « Vive le Québec libre », a été obligé de quitter, mais d'urgence, le Canada, parce que Lester B. Pearson était vraiment en beau maudit contre lui. Il avait précipité son départ. Mais le lendemain matin, il avait quand même dit en conférence de presse que les peuples devaient s'autodéterminer jusqu'à un certain point.
Ah oui, non, il n'a pas reculé du tout. Alors, tu sais, bon, ce qui est intéressant, c'est que son passage au Québec dure 4 jours.
Ouais.
C'est long, là, pour un président de la République, 4 jours. Donc, l'arrivée à Québec, le fait qu'il aille de Québec à Montréal dans une liesse jamais vue avant ni après, la présence des Québécois à cet événement-là
est
extraordinaire dans notre histoire. Il dit « Vive le Québec libre ». Le lendemain, il visite l'exposition universelle. Et le surlendemain, il y a un banquet donné par Drapeau, où Drapeau lui fait la leçon de façon très courageuse. Un peu bouillonne, mais très courageuse. Hey, c'est pas rien, là, de fronter De Gaulle à table. C'est bon. Et De Gaulle ne recule pas. Félicite Drapeau pour son camp, finalement. Mais dit, écoutez, chaque peuple aujourd'hui, c'est la grande idée actuelle, chaque peuple a droit à sa nation. Mais il devait ensuite se rendre pour une journée et demie à Ottawa.
Oui.
Mais évidemment, non seulement il a crié « Vive le Québec libre », ce que les à Ottawa, ils ont dit, c'est un cri séparatiste. Au Québec, les gens n'étaient pas sûrs que c'était séparatiste, indépendantiste. Ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils voulaient dire. Mais en tout cas, à Ottawa, ils étaient sûrs, il y avait une bonne lecture. Mais ce qu'il a dit de pire, c'est qu'il a dit « J'ai senti sur le parcours une atmosphère semblable à la libération. »
Oui, oui.
Ce qu'il voulait dire, puis des journalistes français qui étaient avec lui ont eu la même remarque, c'est que l'intensité, l'enthousiasme, la joie de la foule était semblable à la joie de la foule parisienne au moment de la libération. Mais ce que les Canadiens anglais ont compris, puis je comprends d'avoir compris, c'est ils nous traitent de nazis.
Oui, c'est ça, exactement.
Oui, exactement. Puis alors que nous, on a versé du sang, 5000 soldats canadiens ont péri juste dans le département de Normandie. Alors, donc, ils l'ont très mal pris, de façon très compréhensible. Mais c'est pas Pearson qui a retiré l'invitation à Ottawa.
Ouais.
Il a dit les mots sont inacceptables.
Mais je pense que De Gaulle,
la conclusion,
c'est ça.
Il voulait pas y aller.
Exactement. Je pense qu'il était assez fin renard pour comprendre.
Il était bien content de pas aller à Ottawa.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il était venu avec le Colbert, en se disant, si je vais en bateau, je vais pouvoir arrêter à Québec plutôt que qu'à Ottawa en avion. En tout cas, c'est passionnant, ces courtes histoires. C'est raconté de façon très dynamique et c'est vraiment très intéressant. Alors, ça s'appelle De Gaulle, l'indépendantiste, et l'autre s'appelle « La tentation québécoise » de John F. Kennedy. C'est disponible dans une librairie virtuelle près de chez vous?
C'est disponible en librairie. C'est disponible en version imprimée, numérique ou audio.
Ouais.
On peut aussi le commander sur laboitealizé.com puisque je suis mon propre éditeur avec la maison Carte Blanche. Alors, en librairie ou en librairie virtuelle ou à laboitealizé.com.
Monsieur Lisée, ça a été un plaisir de vous reparler.
Toujours. J'ai bien aimé vos questions, mais je trouvais que les balles n'étaient pas très courbes.
Non, ça dépend des circonstances.
Merci beaucoup, Louis.
Et bonne fin de pandémie et d'été.
D'accord.
Au revoir. Jean-François Lisée, donc auteur et ancien chef du Parti québécois. Alors, les recherches, en fait, les avocats semblent démontrer que la période de pandémie a été très dure sur les couples et le taux de divorce ou de séparation aurait presque doublé au Québec. Alors, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez trouvé ça dur, vous, la pandémie? Est-ce que le confinement a eu un effet sur votre couple? Ben, on vous pose la question après la pause et on vous demande de nous appeler 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850.